découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio.
Vous avez choisi d'écouter Nutri Radio. Nous sommes avec Véronique Lies, diététicienne nutritionniste que l'on retrouve chaque mercredi de 10h à 11h sur Nutri Radio. Bonjour Véronique.
Mais bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Ambeline.
Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet passionnant, encore trop peu connu du grand public, les liens entre le microbiote intestinal et l'obésité. Alors pour poser les bases, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le microbiote intestinal et pourquoi il est considéré comme un acteur métabolique majeur ?
Alors le microbiote, en fait, on devrait dire les microbiotes, mais c'est vrai qu'on tout le monde parle du microbiote et en général on fait référence au microbiote intestinal. Mmh. Et donc quand même deux petites choses à rappeler. D'abord, c'est pas que des bactéries le microbiote, c'est aussi des levures, aussi des virus, aussi des archées. Donc il n'y a pas que des bactéries dans le microbiote. Et donc, comme je le disais, il n'y a pas de microbiote seulement dans l'intestin. On en a un dans le vagin pour les femmes, sur la peau, dans les poumons, dans le nez. Voilà. Donc en gros, on a des microbiotes un petit peu partout. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on a bien compris qu'il intervenait dans de très nombreuses maladies et pathologies, et en particulier dans les maladies métaboliques et dans l'obésité. Et j'aime bien, du coup, rappeler quand même qu'on doit vraiment sortir de cette vision simpliste « je mange trop, je grossis, je mange moins, je maigris » et donc que toutes les personnes en situation d'obésité, c'est des gros fainéants qui mangent beaucoup trop. C'est évidemment complètement faux. Et vous avez des personnes qui ont une alimentation tout à fait correcte et qui malheureusement ont un microbiote déséquilibré qui favorise le stockage de gras et qui inhibe le déstockage. Et ça, c'est vraiment des messages qu'on doit faire passer en tant que professionnel de santé, c'est de modifier cette perception qu'encore beaucoup trop de personnes ont, que si on est en surpoids, ben c'est qu'on l'a bien mérité. Voilà.
Donc tous les microbiotes ne se valent pas, hein ?
Très clairement pas, puisque nous avons chacun notre microbiote, un petit peu comme une empreinte digitale, et il y a certaines familles que nous sommes supposés tout savoir. Mais pour le reste, chacun a vraiment sa propre empreinte, son propre microbiote qui s'est construit principalement dans les premières semaines, mois et années de vie et qui se construit déjà in utero. Parce qu'on sait qu'il y a déjà une forme de programmation. Alors, il y a encore toute une discussion entre les chercheurs pour savoir s'il y a déjà des bactéries qui sont présentes chez le fœtus ou pas. Là, ils ne sont pas encore tous d'accord. Il y en a, ils disent oui, il y en a, ils disent non. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que déjà, ce que mange la maman pendant la grossesse va conditionner la santé de son enfant en raison de son microbiote à elle. Donc, c'est absolument passionnant. Donc, on n'est pas égaux du tout.
Et alors, quels sont les principaux mécanismes biologiques qui lient le microbiote à l'obésité ?
Alors, vous êtes prête ?
Oui.
Alors, c'est une émission un petit peu plus technique. Je dirais peut-être, je vais essayer de simplifier ça au mieux. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés, qui ont envie de comprendre. Et ce que je veux mettre en avant ici, c'est que c'est plus seulement des observations que l'on fait. Aujourd'hui, on comprend de mieux en mieux vraiment tous les rouages, tous les mécanismes par lesquels finalement ce microbiote intestinal joue un rôle crucial dans le développement de l'obésité. Et comment est-ce qu'il fait ça ? Eh bien, il va influencer des voies métaboliques il va influencer l'appétit, il va influencer l'inflammation et il va influencer la régulation de notre tissu adipeux. Donc, c'est extrêmement complexe, mais cette complexité, on commence vraiment à l'aborder de façon de plus en plus claire. Et donc, en fait, on a nos petites bactéries, la plupart du temps, mais je l'ai dit, c'est pas que, hein, mais on a ce microbiote, notamment les bactéries, qui vont aller produire des molécules ou qui vont libérer des molécules, et ces molécules vont avoir un impact direct sur le processus. Donc, c'est vraiment une usine qu'on a dans notre intestin, et on a parmi ces mécanismes certains qui vont plutôt avoir tendance à favoriser l'obésité et d'autres qui vont plutôt avoir tendance à nous protéger. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a des affreux qui peuvent manger n'importe quoi et s'empiffrer à longueur de journée et qui ne prennent pas un gramme.
Ouais, c'est frustrant d'ailleurs.
Qui viennent en consultation pour nous dire « mais moi je veux grossir, mais moi je veux grossir et je n'y arrive pas ». Donc voilà, ces affreux-là, vraisemblablement, c'est lié à leur microbiote. Alors, oui.
Oui, est-ce que vous pouvez nous parler de certains composés clés produits par les bactéries intestinales? Je pensais notamment les SCFA, les LPS, etc.
Ah, mais vous vous êtes entraînée, hein.
Je me suis renseignée un petit peu, oui.
Voilà. Alors, je vous fais un petit topo. Donc ça, on entre dans la partie un petit peu plus technique, on va dire. Alors, il y a certaines bactéries qui sont des bactéries que l'on appelle grammes moins, qui ont au niveau de leur membrane ce qu'on appelle des lipopolysaccharides, LPS. Et donc, ces LPS, en fait, on sait qu'ils sont pro-inflammatoires. Et en particulier, certaines espèces comme des protéobactéries, des Escherichia coli, par exemple, des Klebsiella pneumonia. Donc, les LPS qui viennent de ces familles-là en particulier sont à caractère très pro-inflammatoire. Mmh. Donc, en fait, on va avoir des bactéries qui vont libérer des morceaux de membrane, ce qui va affaiblir notre barrière intestinale et donc favoriser le passage dans le sang de ces petits morceaux de bactéries. Et ces petits morceaux de bactéries vont aller activer des récepteurs de notre système immunitaire. Et donc, tout ça va déclencher de l'inflammation. Et aujourd'hui, on sait que l'inflammation, malheureusement, va perturber la façon dont nos cellules répondent à l'insuline. Donc, en gros, quand vous mangez très gras, peu de fibres et que vous développez un microbiote riche en protéobactéries, des petits morceaux, comme vous avez beaucoup de ces bactéries, ben, il va y avoir beaucoup de ces petits morceaux qui passent la barrière intestinale, qui vont aller activer notre immunité et faire en sorte que nos cellules ne répondent plus à l'insuline. Et donc, on va produire plus d'insuline et on va stocker plus. Et c'est comme ça qu'on peut enclencher une prise de poids. Donc, ces LPS sont plutôt délétères. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des favorables, plutôt des délétères. Donc, ici, malheureusement, c'est pas vraiment, vraiment top. Et il y a certaines bactéries, comme notamment Enterobacter cloaca, qui sont associées à une augmentation de la perméabilité intestinale et justement à ce passage de LPS dans le sang. Donc, ça, c'est un mécanisme. Après, il y en a d'autres, comme vous avez dit. Il y a les acides gras à chaîne courte. Mmh. Alors, les acides gras à chaîne courte, de manière générale, c'est plutôt favorable à notre santé. Quand on mange beaucoup de fibres, eh bien, on va plutôt avoir tendance à en produire en quantité suffisante. Mais ils ont quand même un petit effet ambivalent. Donc, les trois plus connus, c'est l'acétate, le propionate et le butyrate. J'ai beaucoup parlé déjà dans cette émission de butyrate parce que c'est un acide gras à chaîne courte très anti-inflammatoire. Et donc, ces acides gras à chaîne courte, on va les produire en mangeant des fibres. Donc, selon les bactéries que vous avez dans votre intestin et selon ce que vous mangez, vous allez produire plus ou moins de ces acides gras à courte chaîne dans des proportions qui seront différentes selon ce que vous mangez. Et donc, globalement, ce qui est intéressant, c'est que ces acides gras à chaîne courte, ils sont capables de nous couper l'appétit. Et notamment en stimulant une molécule qui s'appelle le GLP-1. Alors, peut-être ça ne vous dit rien comme ça, non. Mais il faut savoir que le GLP-1, c'est la cible des médicaments anti-surpoids et obésité dont on parle tant comme l'Ozempic, Mounjaro. Oui. Et donc, pour vous dire à quel point c'est puissant, ça veut dire que en fait, aujourd'hui, ces médicaments anti-obésité ciblent des molécules que nous pouvons booster naturellement en mangeant des fibres.
Est-ce que si on n'en mange pas assez, c'est possible d'en prendre en complément alimentaire, etc. En gélule, par exemple.
Du GLP-1, non. Mais vous avez ces médicaments uniquement sur prescription et qui ont, je le rappelle quand même, certains effets secondaires. Donc ça se fait uniquement en cas d'obésité avérée et en concertation avec son médecin, d'obésité ou de diabète de type 2. Hein, dans les deux cas, c'est quelque chose qui peut se discuter tout à fait avec le médecin. Mais je voulais juste signaler, parce que certains prennent un petit peu ça comme des bonbons avant l'été pour maigrir, que finalement, quand on mange beaucoup de fibres, les bonnes fibres, on va produire des acides gras à chaîne courte qui vont jouer sur notre satiété en boostant du GLP-1, en boostant du peptide YY au niveau de notre intestin. Et donc, tout ça va avoir comme effet favorable de réduire l'appétit et donc de réduire notre apport en calories. Et en parallèle, ce qui est très intéressant, c'est que ça va aussi augmenter notre dépense énergétique, ce qui est quand même assez génial, c'est-à-dire que sans manger plus, vous vous souvenez, je vous avais parlé dans une émission du fait que on n'était pas obligé de faire de restrictions caloriques pour perdre du poids, que c'est vraiment une question de qualité. Eh bien, on le voit ici encore, le fait de manger des fibres, eh bien, ça permet finalement de dépenser plus d'énergie, et donc on va aller booster des enzymes qui favorisent l'utilisation des graisses et donc qui réduisent le stockage.
Petite pause sur Nutri Radio, on revient dans un instant avec vous, Véronique Liès, à tout de suite.
À tout de suite.
La révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio.
Et nous sommes toujours avec Véronique Liès. Alors, on va parler des solutions nutritionnelles concrètes pour rééquilibrer le microbiote et du rôle des fibres, aussi des probiotiques ou encore des polyphénols dans la prévention de l'obésité. Alors, que peut-on recommander sur le plan alimentaire pour favoriser un microbiote protecteur contre l'obésité, Véronique ?
Alors, on a plein de choses à dire parce que finalement, tout à l'heure, je vous en ai cité deux de ces molécules, mais en fait, il y en a plein d'autres qui sont impliquées dans le surpoids et l'obésité. Je vais peut-être juste les citer, mais les acides biliaires, par exemple, on sait que les acides biliaires, qui à la base, on les connaissait pour digérer les graisses, eh bien, ils peuvent aussi avoir des effets anti-obésité et inhiber le stockage de gras, notamment dans le foie, et améliorer aussi notre dépense énergétique. Donc, attention quand même aux quantités de graisse aussi et au type de graisse que l'on va consommer. Mais il y en a d'autres comme des systèmes plus complexes, le système endocannabinoïde, on a tout ce qui est inflammation, donc les oméga-3 qui sont protecteurs, un excès d'oméga-6 qui va être délétère, on appelle ça des oxylipines qui sont capables aussi d'aller agir au niveau de notre corps sur l'inflammation. Et il y en a comme ça toute une série, le facteur adipocytaire induit par le jeûne. Donc en fait, ce qui est absolument passionnant aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une multiplicité d'acteurs en lien avec le microbiote qui vont aller vraiment réguler le poids. Et donc, c'est un message très important à faire passer. Après, évidemment, maintenant, on va se demander ce qu'on peut faire. Alors, il y a toute une partie de la stratégie qui est de la prévention. Et là, malheureusement, quand on est adulte, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire que, on peut aussi faire des émissions entières là-dessus, mais une femme qui a, qui, qui a un enfant dans son ventre, bien heureuse soit-elle, eh bien, il faut comprendre qu'elle a beaucoup d'outils à sa disposition pour essayer de prédisposer son enfant à être en bonne santé, et notamment en bichonnant son microbiote. Et puis, ça peut être aussi comment l'enfant est né, est-ce qu'il est né par voie basse, ou bien par césarienne, est-ce qu'il a été allaité ou pas, est-ce qu'il a reçu des antibiotiques ou...
Ça joue aussi pour le bébé.
Tout ça, ça joue... C'est la période la plus importante de modulation du microbiote. C'est les 1000 premiers jours. On appelle ça la DOAD. C'est la Developmental Origin of Health and Disease. C'est les 1000 premiers jours entre la conception et donc à peu près l'âge de 2 ans. Et c'est une période absolument cruciale durant laquelle l'enfant va vraiment former son microbiote et être programmé ou pas à être plus ou moins malade. Après, on a évidemment... beaucoup de choses encore intéressantes quand on grandit à mettre en place et même à l'âge adulte. L'idée, vous l'aurez compris, c'est vraiment d'aller promouvoir les bactéries bénéfiques et d'inhiber les bactéries en lien avec l'obésité. Donc, aujourd'hui, dans la littérature scientifique, on a pu mettre en avant certaines souches qui sont vraiment très intéressantes et protectrices. On a notamment Akkermansia muciniphila, qui est vraiment associé à une meilleure intégrité de la barrière, à moins d'inflammation, à une meilleure sensibilité à l'insuline. On a aussi toute une série de lactobacillus, notamment des rhamnosus ou des gacéries, qui produisent beaucoup d'acides gras à chaîne courte dont j'ai justement parlé. On a aussi des bifidobactérium, et notamment le bifidobactérium longum ou animalis, qui vont jouer un rôle en activant des voies métaboliques. Donc ça, c'est les bactéries plutôt bénéfiques. On a aussi Fecalibacterium prausnitzii, qui produit beaucoup de butyrate, donc beaucoup de mucus, donc qui est très anti-inflammatoire. Donc tout ça est évidemment très intéressant dans la gestion du poids. Et puis on a des souches qui sont nettement moins sympathiques, dont on entend moins parler. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Enterobacter cloca, de Dorea longicatena. Bref, il y a d'autres souches comme ça qui sont plus problématiques. Alors évidemment, on ne peut pas les cibler directement aujourd'hui. Je pense qu'un jour, on pourra. C'est ça qui est génial. C'est que la recherche avance tellement qu'un jour, on pourra... donner au patient, enfin le médecin pourra donner au patient par exemple des phages, donc des virus de bactéries qui seront capables d'aller éliminer seulement certaines souches. Vous savez qu'aujourd'hui en donnant des antibiotiques on rase un peu tout, hein.
Et oui.
Donc on enlève les mauvaises mais on enlève aussi les bonnes. Et donc à l'avenir, et c'est pas si lointain, hein, je peux vous le dire, on va être capable vraiment de donner des virus qui vont aller détruire certaines souches. Donc ça c'est assez génial. Aujourd'hui on n'a pas encore accès à ça, mais ce que l'on sait, c'est que plus on va booster les bonnes bactéries, plus on va réduire la charge en bactéries potentiellement délétères et obésogènes, parce que les bonnes vont prendre la place des moins bonnes. Et donc, on sait qu'on a certains composés alimentaires qui peuvent jouer vraiment un rôle intéressant. Alors évidemment, les fibres, les prébiotiques, je ne vais pas le rappeler, on l'a déjà dit tant de fois, et il faut vraiment à chaque repas s'interroger sur... est-ce que je mange des aliments complets? Est-ce que je mange des bons oméga-3? Est-ce que j'ai beaucoup de végétaux dans mon assiette? Comment est-ce que je peux rajouter des graines, des noix, voilà, pour vraiment aller nourrir ce microbiote? Mais on a des petits composés qu'on peut aussi rajouter, notamment la quercétine, la berbérine, la rhubarbe, le camu-camu, le thé vert, les polyphénols du thé vert sont vraiment très intéressants aussi. Et on a aussi en phytothérapie quand même la grenade qui peut être très intéressante comme antibactérien sans pour autant faire trop de dégâts évidemment au niveau du microbiote. Donc l'idée c'est vraiment ça, choisir le bon gras, c'est-à-dire des oméga-3 avec le poisson gras, avec de l'huile de colza, mais pas d'excès de gras. On a besoin de gras. Le gras est essentiel à la vie et à la santé, mais par contre, le gras en excès et particulièrement les graisses saturées, les graisses cuites, donc les graisses plutôt solides comme le gras de la viande, etc., sont quand même assez problématiques pour notre microbiote qui n'aime pas trop ça.
Bah, donc, on a du mal à les digérer, oui.
Voilà, mais on a du mal à les digérer, mais voilà, en plus, c'est pas très copain-copain avec le microbiote, et malheureusement, c'est souvent du gras qu'on mange en grande quantité. Donc aujourd'hui, le meilleur levier dont on dispose, c'est vraiment l'assiette. La recherche évolue terriblement pour vraiment nous aider à proposer des probiotiques, notamment Akkermansia muciniphila qui existe déjà, et il y en a beaucoup d'autres qui vont sortir dans les années à venir, qui sont vraiment des probiotiques de qualité, avec des souches qui auront été étudiées et qui vont même sortir comme des médicaments, hein, parce qu'il y a beaucoup de souches aujourd'hui qui sont en recherche pour sortir comme un médicament. Et puis, peut-être un jour, mais c'est pas encore le cas, on pourra parler de transplantation de microbiote fécal pour prendre en charge ce genre de pathologie. Mais là, aujourd'hui, ça n'a pas encore fait ses preuves dans ce domaine-là, au point de proposer ça aux patients. Il y a encore beaucoup trop de questionnements sur les effets, parce que nous sommes tous différents, tout simplement.
Ah bah oui, je pense qu'il faut adapter à chaque individu les recommandations du microbiote, j'imagine. Hein.
Très clairement, oui. Très clairement. Et voilà, l'avenir, ça va être aussi une standardisation des tests de microbiote, la sortie de phages, la sortie de probiotiques qui pourront vraiment de façon ciblée aller aider les patients en fonction de leur propre microbiote. Donc voilà, on a déjà beaucoup d'éléments aujourd'hui en main pour personnaliser, mais dans les années à venir, ça va être vraiment une explosion.
Merci beaucoup Véronique pour ces explications très claires, hein, d'un sujet très pointu, on le disait en début d'émission. On se retrouve mercredi prochain.
Avec grand plaisir.
Très bonne journée. Cette émission sera en podcast dans quelques minutes sur nutriradio.fr, rubrique médias et sur toutes les bonnes plateformes de streaming en tapant Révolution Microbiote.
La révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio.